Alors, donc, on écrit cette solution générale sous la forme solution sans second membre, UCSSM, plus la solution particulière. Alors, donc, dans le cas d'un circuit de second ordre, en fait, la solution de l'équation homogène représente le régime transitoire. C'est ce qui va apparaître pendant un court instant, et ensuite, il va disparaître pour laisser la place à la deuxième solution, qui est la solution particulière. Donc, la solution particulière représente le régime permanent, une fois que le régime transitoire aura disparu. Alors, donc, nous allons résoudre, donc ce qui va nous intéresser ici, c'est l'étude du régime transitoire. Et donc, du coup, on va simplement égaliser à zéro le membre de gauche. Donc, on obtient une forme canonique de l'équation différentielle. Alors, d'une manière générale, ce genre d'équation possède une solution particulière qui vérifie toujours l'équation, qui est de la forme uc de t égale à exponentielle de r fois t, où r est un réel, et t le temps, bien sûr. Alors, donc, si on dérive deux fois exponentielle de rt, et on dérive une fois, et ensuite on remplace dans l'équation, eh bien, après mise en forme, on arrive à l'équation r carré plus 2 lambda r plus oméga 0, le tout facteur de l'exponentielle rt égale 0. Or, on sait que l'exponentielle ne s'annule jamais. Donc la seule solution possible pour notre équation, pour qu'elle puisse être, pour que cette équation, pour que cette solution particulière puisse vérifier cette équation, eh bien, il faudrait que le trinôme r carré plus lambda r plus oméga 0 soit égal à 0. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'équation caractéristique de l'équation différentielle. Alors, donc, ça se résout comme l'équation du second degré. Donc, on détermine le delta, et qui, dans ce cas-là, est égal à lambda 2 moins oméga 0 carré, hein, les constantes qu'on avait définies auparavant. Et donc, il va y avoir trois possibilités, suivant que le delta est positif, nul ou négatif. Et donc on va définir différents régimes qu'on appellera le régime apériodique, le régime critique ou le régime pseudo-périodique ou oscillation amortie. Je passe à la diapositive suivante. Alors donc, la forme de la solution pour chacun, pour chaque cas, suivant le signe du delta. Alors, donc, lorsque delta est positif, tout le monde se rappelle que la solution elle est de la forme moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc, en reprenant cette expression-là, donc on arrive à deux solutions possibles, qu'on va appeler R1, avec le moins lambda et moins le delta, et la solution R2, c'est moins lambda plus le delta. Et donc, la solution générale, ça va être une combinaison linéaire des solutions trouvées, des deux solutions particulières trouvées. Donc ça va donner A exponentielle R1t plus B exponentielle R2t. Alors après, quand on explicite R1 et R2, vous avez l'exponentielle de moins lambda t qui apparaît dans les deux solutions. Que l'on peut mettre en facteur, c'est ce qui est fait ici, et il va nous rester simplement la constante A exponentielle de moins la racine du delta, et plus B exponentielle de la racine du delta. Alors, sur la droite, vous avez la forme de la solution, donc c'est une solution qui part de zéro, puisque si on considère que le condensateur n'était pas chargé au départ, donc, vous devez avoir une tension qui commence à 0. Donc, ça vous donne des conditions initiales sur les constantes A et B, évidemment. Ensuite, ça passe par un maximum, et ensuite, ça retombe à 0. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est la forme générale de ce genre d'équation. Alors, deuxième cas possible, c'est delta égale 0. Dans ce cas-là, vous avez le coefficient lambda qui est égal au coefficient oméga 0. Donc, pour certaines valeurs bien choisies de la résistance, de l'inductance et de la capacité, on peut réaliser cette condition lambda, lambda, je rappelle, c'était égal à R sur L, et oméga 0 carré, c'était 1 sur LC, le produit LC. Et donc, en choisissant bien les valeurs pour R, L et C, on peut réaliser cette condition. Et donc, dans ce cas-là, le delta s'annule, et il ne nous reste plus que la solution double, moins B sur 2A, qui nous donne simplement moins lambda. Alors, la forme de la solution générale de cette équation, elle est donnée ici, c'est-à-dire l'exponentielle de moins lambda t, et ensuite qu'il faut multiplier par at plus b. Alors ici, on ne va pas rentrer dans les détails pour savoir exactement pourquoi est-ce qu'il faut multiplier ça par la fonction at plus b, mais retenez simplement que dans le cas où vous avez delta égale 0, la solution se met sous cette forme-là. Alors, la différence avec le régime précédent, apériodique, c'est simplement que donc c'est à peu près le même comportement, sauf que c'est la fonction UC de T revient à zéro plus rapidement, donc elle va pendre vers zéro plus rapidement que dans le cas précédent. Troisième et dernier cas, c'est si le delta est négatif. Donc si delta est négatif, à ce moment-là, vous avez donc la possibilité, c'est ce qui est fait ici, de réécrire le delta en inversant oméga 0 carré et le lambda carré, puisque si delta est négatif, ça veut dire que lambda 2 est inférieur à oméga 0 carré. Donc si on inverse l'expression, oméga 0 carré moins lambda 2 devient positif. Alors, donc le signe moins devant, on peut toujours l'écrire sous la forme du nombre complexe i carré. Donc c'est très clair que cette équation n'a pas de solution dans R, par contre elle a une solution dans C, l'ensemble des nombres complexes. Eh bien, alors donc la solution générale s'écrit comme pour une solution d'un trinôme, hein, c'est moins B plus ou moins racine de delta sur 2A, et donc ça nous donne les deux solutions possibles, complexes cette fois-ci, qui sont donc R1 et R2. Donc la solution générale, ça va être une combinaison de exponentielle de R1 et de exponentielle de R2 avec deux coefficients A et B. Alors les coefficients A et B dans ce cas-là sont aussi des nombres complexes. Alors donc les exponentielles de iθ peuvent toujours se mettre sous la forme. Donc si vous rappelez des propriétés des nombres complexes, exponentielle de iθ s'écrit comme cosθ plus i sinus θ. Donc il est possible d'écrire ces exponentielles sous forme d'une fonction de cosinus et de sinus. Et on peut montrer que la partie imaginaire de ce genre d'équation peut s'annuler et il ne nous reste plus qu'une fonction réelle dépendante donc de cosinus et que l'on peut mettre sous la forme qui est donnée donc à droite, c'est exponentielle de moins lambda t et cosinus de racine de delta fois t plus donc une constante qu'on appelle la phase phi. Alors, donc, cette solution, vous voyez que c'est une fonction cosinus, donc c'est une fonction alternative, donc c'est une sinusoïde au départ, sauf que cette sinusoïde, elle est multipliée par une exponentielle, et donc en fait, le schéma que vous voyez qui apparaît, c'est donc le schéma d'une sinusoïde, mais dont l'amplitude diminue régulièrement. Alors, donc sur la diapositive suivante, on va voir un peu plus en détail ce dernier cas. Voilà. Alors, donc, si je regarde le graphe de la tension au banc du condensateur, donc en régime transitoire, donc je retrouve... Alors, peut-être avant, il faudrait préciser que l'expression générale de cette tension, il y a deux paramètres à déterminer, qui sont donc la constante grand C, qui n'a rien à voir avec la capacité, hein, donc c'est juste une constante, et phi, qui est le déphasage. Donc on va se servir des conditions initiales pour déterminer la constante C, hein, je rappelle qu'il n'a rien à voir avec la capacité, et phi qui est l'angle de phase associé à la solution trouvée. Donc si on dit par exemple qu'à t égale 0, le condensateur est chargé, donc ça voudrait dire qu'il a une tension non nulle, qu'on appellera U0, et ensuite on ferme K, et le courant commence à passer. Donc, la constante qu'on cherche, elle est égale à U0, et donc la phase à l'origine, phi, est égale à 0. Alors donc il faut dérouler l'équation pour pouvoir montrer ça. Donc ici je le résume vraiment. Et donc la solution générale peut s'écrire sous la forme, donc en rouge, c'est encadré en rouge. Donc la constante C a remplacé par U0, la tension au départ. Et le cosinus, il est directement égal à racine carrée de oméga 0 carré moins lambda 2 fois T, puisque phi est égal à 0. Et donc on voit bien que dans cette solution-là, si vous remplacez t par 0, le cosinus vaut 1, l'exponentielle vaut 1, et donc il vous reste simplement u de t égale à u0, ce qui était prévu, à savoir que le condensateur était initialement chargé à la tension u majuscule 0. Bien, alors donc sur le graphe, pour revenir sur le graphe, donc vous avez donc votre sinusoïde. Et vous voyez que les amplitudes diminuent régulièrement, et en fait, l'amplitude de la sinusoïde diminue parce que vous avez le coefficient en exponentielle moins lambda t qui est une fonction décroissante. Et donc, voilà, alors, ça reste une fonction périodique, donc de période de pi. Et pour déterminer donc la pseudo-pulsation, eh bien la pseudo-pulsation, elle est directement égale à la racine carrée de oméga 0 carré moins lambda 2. Et lambda est le coefficient qu'on appelle le coefficient d'amortissement, puisque une résistance dans un circuit, elle joue le rôle d'amortisseur, c'est-à-dire elle consomme de l'énergie sous forme d'échauffement, et donc c'est une perte d'énergie. Et donc, c'est la raison pour laquelle on l'appelle le coefficient lambda. Donc, voilà, en gros, sans vraiment rentrer dans beaucoup de détails, le traitement des circuits de type R, L et C. Donc, à chaque fois que vous avez en présence dans un circuit, soit en série, soit en parallèle, d'une capacité et d'un condensateur, pardon, et d'une bobine, vous avez toutes les chances d'aboutir à un circuit de second ordre, c'est-à-dire à des équations différentielles du second ordre. Donc la résolution, elle est toujours la même, hein, comme on vient de le voir. Donc il faut simplement adapter les conditions initiales pour pouvoir déterminer la solution. Donc d'une manière générale, vous avez un delta, il est soit positif, soit nul, soit négatif. Hein. Vous n'avez pas à traiter les trois cas, il n'y a qu'un seul cas qui apparaîtra. Et donc, pour chacun de ces cas, en fonction des conditions initiales, vous devez donner donc la forme générale de la solution et ensuite adapter les constantes qui apparaissent pour rendre compte des conditions initiales. Voilà. J'ai terminé. Alors, donc, le prochain cours portera sur donc l'étude des circuits en régime sinusoïdal. Voilà. Et donc, il y a un seul exercice dans le fascicule de... Non, il y en a plusieurs dans le fascicule de TD. Je vous indiquerai les exercices à faire. Et puis après, je vous passerai la solution de ces exercices-là. Voilà. Je vous remercie de votre écoute.